Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci
Bonjour.
d'être venus en nombre pour cette dernière session de la journée. On va essayer de ne pas vous endormir durant les 60 prochaines minutes. Déjà que vous avez eu pas mal de matière durant cette journée. Aujourd'hui, on va donc vous parler de gestion de contenu web sur SharePoint 2013. Je serai accompagné aujourd'hui de Benjamin Soulier.
Bonjour.
De quoi on va parler aujourd'hui plus précisément? On va parler d'ailleurs en première partie des challenges que l'on a avec SharePoint 2010 dans le cadre de la gestion de contenu web. Et ensuite, de quelle manière SharePoint 2013 adresse ces problèmes-là en choisissant trois sujets bien particuliers. Le premier, donc le design graphique associé, j'irais, à une partie mobile, mobilité. Le deuxième sujet sera la navigation et ce qu'apporte SharePoint 2013 en rapport à la navigation. Et le troisième sujet, c'est ce que l'on a appelé ici la publication transverse. En fait, je n'ai pas vraiment trouvé de terme français correct pour cross-site collection publishing. Il y aura à chaque fois une démo pour illustrer chacun de ces trois sujets. Et à la fin, nous aurons donc une session de questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes les questions dont vous désirez. Une petite coupure pub en passant. Qui sommes-nous et d'où venons-nous? Donc, Cambridge Technology Partners, une société de conseil IT et business, qui emploie un petit peu plus de 200 personnes sur trois sites différents, Nyon, Bâle et Zurich, avec deux centres de développement à Lviv en Ukraine et à Budapest. L'année passée, nous avons eu l'honneur d'être élus partenaire de l'année sur le Future of Productivity. Nous sommes encore un partenaire très actif en Suisse romande de Microsoft. En ce qui nous concerne proprement dit, on a Benjamin Soulier aujourd'hui.
Voilà, pour ma part, je suis donc expert technique chez Cambridge Technology Partners. J'ai beaucoup travaillé sur SharePoint sur les trois dernières versions, on va dire, et je suis aussi accessoirement MVP sur la technologie Windows Azure.
Voilà. Oups. En ce qui me concerne, Yves Penvert, principal intervenant, en tout cas sur le papier, architecte senior pour Cambridge Technology Partners, m'occupant de la plupart des projets ayant trait à SharePoint chez Cambridge. On va passer tout de suite au vif du sujet, dans le vif du sujet, avec le WCM et SharePoint 2010. Quels sont les problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle? Alors en fait, quand vous surfez sur un site web, vous vous apercevez tout de suite si il y a SharePoint derrière ou pas, simplement par un seul mot-clé, donc Pages, qui se retrouve dans quasiment toutes les URL de votre site internet. Alors il y a la possibilité de s'en défaire, de supprimer Pages, simplement en faisant de l'URL rewriting dans 2JS, mais ce n'est pas forcément la solution la plus évidente. Donc là, c'est le premier challenge que l'on a. Le deuxième challenge avec ce type d'URL, c'est en termes d'optimisation pour l'indexation de la part des engins de recherche. On n'a pas forcément des noms de pages qui veulent dire quelque chose. Donc default.spx, c'est la page par défaut de votre site, qui pourrait très bien être autre chose d'ailleurs, mais ce n'est pas vraiment parlant. Donc on va le voir comment c'est adressé dans SharePoint 2013. Le deuxième challenge que l'on a avec SharePoint 2010, ceux qui ont fait l'expérience mobile avec SharePoint 2010, s'aperçoivent en fait que ce n'est pas forcément. C'est pas super. On a des pages qui sont relativement lourdes, avec beaucoup de JavaScript qui est embarqué. Ensuite, pour la gestion des différents devices, des différents mobiles ou des différents navigateurs, ça vient vite un casse-tête en termes de master page, en termes de design, de CSS, etc. Un autre challenge que l'on a, ça ressemble un peu à mon bureau ces temps, c'est l'architecture d'information. Et en fait, on a une architecture d'information qui doit correspondre à notre navigation. Je m'explique. Vous avez un site, plusieurs sous-sites, des librairies, éventuellement des répertoires qui vont contenir vos pages web. Si vous voulez modifier votre navigation, vous êtes obligé de modifier votre structure physique. Et typiquement, vous voulez bouger un site, ou plutôt un site d'un emplacement à un autre, vous êtes obligé vraiment de le bouger avec des scripts, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vite lourd, c'est vraiment pas pratique. Donc on va voir comment SharePoint 2013 s'en sort. Et puis, surtout, le dernier problème ou le dernier challenge que l'on a avec SharePoint 2010, c'est que généralement, vous avez affaire à deux types de personnes qui vont développer votre site web. vous aurez d'un côté les développeurs et d'un côté les designers qui vont faire les créations graphiques. Et puis donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez la chance d'avoir un développeur qui est capable de faire du design, c'est très bien. Sinon, si vous allez vers votre développeur et vous lui dites « j'aimerais une page web qui est super géniale, qui flash, etc. », c'est généralement la réponse que vous allez avoir. Donc le développeur, c'est rarement un très bon designer. Le designer, c'est rarement un très bon développeur. Ou alors, vous avez vraiment de la chance et vous avez une perle rare. Dans ce cas-là, vous la gardez. Donc justement, donc le problème qu'on a, c'est vraiment un mix de compétences qu'il faut avoir pour développer avec SharePoint 2010. Donc justement, on va voir en fait ce qu'apporte SharePoint 2013 sur ces différents sujets. D'ailleurs, Benjamin va vous parler du premier sujet.
Donc, comme Yves vous l'a présenté jusqu'à maintenant, donc on va parler un tout petit peu donc design et mobilité. Donc, pour adresser donc les premiers problèmes dont Yves a parlé sur la partie design, donc une petite illustration, je dirais, de la confrontation qu'on pourrait avoir justement entre les deux domaines. Et c'est vrai qu'en général, ça peut peut-être en arriver jusqu'à, je dirais pas que ils vont se taper dessus, mais ça prend assez bien l'image en tout cas. Donc les nouveautés côté SharePoint 2013, très importantes justement pour la gestion du design, vont être donc notées ici. Donc la première, ça va être donc ce qu'on disait, donc donner la maîtrise au créatif, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de forcément passer par le développeur qui lui sait comment intégrer les différents composants SharePoint, c'est-à-dire les menus, etc., avec des contrôles ASPX pour ceux qui ont fait des manipulations de master page dans SharePoint, pour pouvoir avoir un rendu potable. Là, dans ce cas-là, on va pouvoir l'adresser de manière complètement différente et on le montrera dans la démo juste après, vous allez voir, c'est assez intéressant. Un petit point aussi intéressant par rapport à ça pour ceux qui ont essayé de faire des customisations, j'irais vraiment importantes au niveau des master pages de SharePoint, ils ont pu s'apercevoir que les tables, les fameuses tables qu'on est plus censé se servir depuis au moins une bonne dizaine d'années en design HTML, étaient toujours présentes à l'intérieur de SharePoint 2007 et 2010. Donc là, grosse nouveauté, on a une interface qui est complètement, vidée, à clairement parler du mot-clé table. Tout est fait à base de div. Donc là, on a vraiment une maîtrise complète du changement qu'on peut faire au niveau du design. Donc ça a une conséquence. Uniquement en faisant de l'HTML, du CSS et du JavaScript, au niveau de son interface, on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut avec le rendu web de ces pages dans SharePoint. Côté design, on va pouvoir du coup, et on le verra aussi dans la démo, utiliser des outils standards, c'est-à-dire que on va pouvoir développer sa page de manière complètement classique, avec typiquement les deux exemples qui sont notés sur le côté là-bas, donc Dreamweaver par exemple pour la partie Adobe et Expression Web pour l'outil Microsoft. Et ça adresse donc la problématique dont on parlait tout à l'heure, on a une vraie séparation des compétences, c'est-à-dire il y a la personne côté développement qui va faire l'intégration de la page. Et quand je dis intégration, c'est pas un mot très lourd, vous allez voir, ça se fait très facilement. Et je dirais la partie design qui est vraiment un combo au designer. Mais je dirais il n'y a plus un affrontement, comme on a pu le voir juste avant, entre les deux parties. On va parler rapidement aussi de la mobilité, on verra ça aussi dans la démo. Donc on a une nouvelle notion dans SharePoint 2013 qui est la notion de device channel. Alors qu'est-ce qu'un device channel? Ça va être la manière en fait d'adresser donc le user agent, pour ceux qui connaissent, donc la clé qui est envoyée par le navigateur mobile ou le navigateur classique pour dire hey, je suis Internet Explorer, Firefox, Safari mobile, etc. pour que on puisse adapter en fait dans SharePoint 2013 et mapper une master page en fonction d'un type de navigateur. C'est-à-dire par exemple, on va dire que tous les navigateurs mobiles, je les adresse avec une master page mobile. Et tous les navigateurs desktop vont être adressés avec une page desktop. Donc on va vraiment pouvoir séparer le design. Comme noté ici, c'est pas forcément uniquement valable pour les appareils mobiles. Un user agent, on pourrait très bien dire que un site SharePoint dans un rendu particulier voudrait adresser certaines spécificités de Firefox, par exemple, et à ce moment-là le rendre dans ce cas-là de manière différente. On va tout de suite passer à la première démo. Hop. Alors, donc. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je pense peut-être si avec les quelques sessions qu'il y a eu avant, donc ça c'est le nouveau design de SharePoint 2013, donc une page par défaut, avec un site ma foi tout à fait standard, donc out of the box avec, je dirais, un petit menu avec une navigation en haut, ça Yves vous en parlera tout à l'heure. Donc ce qu'on va d'abord regarder ici, on va venir en fait dans un dossier où on a en fait donc un set de fichiers, on a quelques images, on a un fichier CSS. Alors pour vous montrer un petit peu ce qu'on a à ce niveau-là, je vais venir ouvrir ça avec Ultra Edit. Hop. Donc comme je vous disais, donc du contenu HTML, tout ce qui est plus classique, ce ne sont que des divs avec un petit peu de CSS. Donc jusque-là, rien de bien sorcier. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir dans SharePoint ici et je vais venir utiliser une nouvelle fonctionnalité que vous voyez dans le coin ici là-bas, qui s'appelle le Design Manager. Alors qu'est-ce que le Design Manager ? On va venir l'ouvrir, on va regarder ça tout de suite. Alors ce Design Manager va me permettre de venir uploader des fichiers de design. Donc ça c'est la première étape. Donc ici, donc pour ceux qui connaissent, on va pouvoir mapper un dossier local pour pouvoir uploader les fichiers dedans. Donc ce que j'ai déjà fait préalablement, pas encore. Alors pour ceux qui connaissent, donc comme je disais, on va juste, si j'y arrive, venir copier ici. Donc je vais monter un network drive. Voilà, donc là on arrive dans le dossier donc, qui contient les master pages, etc. Donc là on va juste venir créer un nouveau dossier pour mettre ma master page à l'intérieur, enfin ma page HTML, pardon. Donc je crée mon fichier. Je vais venir copier la totalité de mes fichiers sans vraiment faire de changement de ce côté-là. Et je vais les mettre dans mon répertoire. Donc, jusque-là, rien de compliqué, on va juste copier ces fichiers. J'en profite pour revenir dans mon designer ici. Et donc, on va passer ici. Donc, dans une première étape qui est importante, on va, entre guillemets, transformer. Vous allez voir, c'est pas le mot transformer, n'est pas très complexe. On va venir importer en fait notre page en tant que page SharePoint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, comme vous avez pu le voir, ma page au départ, c'est une page HTML. Donc, ce que va me permettre de faire SharePoint ici, donc lorsque je vais venir la sélectionner, voilà. On va attendre un petit peu, le temps qu'il fasse la transformation. Voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai ma page. En fait, ce que va faire SharePoint, si je retourne dans mon dossier ici, je vais faire F5, hop ! Vous avez vu, il y a une page master qui est apparue là. En fait, cette page master, c'est SharePoint qui a pris mon fichier HTML, qui est venu intégrer donc toutes les fameuses pages, enfin tous les fameux tags dont je vous parlais tout à l'heure, donc les tags SharePoint pour le ribbon, pour les menus, etc., et qui est venu les importer automatiquement dans ce fichier master. Alors, il n'a pas fait que ça, parce que quand je vais reprendre mon fichier HTML, on va s'apercevoir à l'intérieur qu'on a plein de tags qui correspondent justement à ces objets-là. Donc on peut voir des délégués de contrôle, on peut voir, etc. Mais comme vous le voyez ici, c'est le point important, tout est en commentaire. C'est-à-dire que si je prends le même fichier que je renomme à mon designer, je dis ouais, « il faudrait que tu me changes un petit truc parce qu'il y a quelque chose qui me plaisait pas », il peut le prendre, il peut l'ouvrir, parce que ces commentaires-là seront juste pas traités par l'éditeur de design qui est utilisé par le développeur, par le designer, pardon. Donc ça, c'est la première étape. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut pouvoir continuer ici, donc en venant utiliser notre page. Et donc là, on entre en fait dans un mode, on est dans un mode preview de la page qu'on vient d'uploader, donc la page qui est pré-taguée. Donc ici, on voit qu'on a une page standard, et SharePoint a déjà essayé de faire un petit quelque chose, parce qu'en bas, il est venu m'ajouter un petit div en me disant « ça, c'est normalement là où le contenu que je voudrais afficher en tant que page par-dessus la master page que j'ai créée de ta page HTML devrait arriver ». Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre... Alors, pour le coup, un outil classique. On va juste revenir ouvrir cette page HTML et je vais venir la mettre à l'intérieur de Ultra Edit et je vais venir éditer ma page. Donc ici, on va trouver, sans rentrer trop dans les détails, donc ça c'est le content placeholder qui a été placé par SharePoint pour le contenu de la page. Je vais juste le mettre au bon endroit. Alors que je retrouve mes marques. Donc ici, on a le contenu, donc je vais venir prendre le contenu original de la page, l'enlever, et je vais re-sauvegarder la page. Voilà. Donc je vais re-switcher ici, un petit F5, et voilà. Donc là déjà, en l'espace de 2 secondes, j'ai juste repositionné mon contenu. Alors, on va se dire, bon là on a le menu de base de la page, on a un titre qui ne correspond pas à grand chose. Donc là on va passer dans une autre partie qui s'appelle les snippets. Alors, ces snippets à l'intérieur du Design Manager vont me permettre quoi, en fait? D'extraire des blocs HTML, toujours en mode commentaire, pour pouvoir les redonner après au designer, qui vont me donner des pointeurs, en fait, sur des composants de SharePoint que je vais pouvoir intégrer dans ma page. Donc, le premier exemple qu'on va regarder, donc, c'est la top nav, donc la top navigation qui est ici. On va juste, pour les besoins de la démo, changer une ou deux petites valeurs par-ci, par-là, pour l'affichage. Elle est où ? Behavior. Voilà, donc ici, on peut changer, comme vous voyez, il y a plein de propriétés, on peut changer un petit peu le comportement du contrôle. Alors, j'update cette propriété. Et donc, on va revenir voir ici. Donc, vous avez vu que, par exemple, le layout ici du menu a changé. Donc, on peut avoir une preview un petit peu de ce que va donner le snippet. Donc, on va copier le contenu de ce menu. Je vais repasser dans Ultra Edit. Je vais retrouver l'équivalent de mon Start Menu qui est ici. Voilà. J'enlève ça, je le mets ici. Pareil, CTRL-S. Et histoire de faire deux choses pour pas perdre de temps, je vais revenir dans la galerie et je vais lui demander de me donner le title du site. Donc là, pareil, on voit donc, là, bon, rien de bien compliqué, il me donne juste le title. Je vais copier aussi ce snippet. Je vais revenir là et donc on avait le titre de base qui était ici. Je l'enlève et je mets le site title. Voilà. On revient dans le preview, F5. Voilà. Vous avez vu en l'espace de, je n'ai pas regardé mon temps, mais je pense qu'on y est depuis 2-3 minutes, j'ai fait une intégration assez rapide. Donc là maintenant, je vais reprendre la totalité de ma page, et je vais donc le faire, je dirais faire les choses comme vous avez l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. On va juste revenir sur le site, on va aller dans les site settings, on va ouvrir la master page, et maintenant on va lui dire, je veux que tu utilises ma master page pour appliquer le layout. On va attendre l'application de la master page, et voilà. Donc vous voyez, j'ai mon menu qui fonctionne, etc. Donc tout de manière assez, j'allais dire, assez simple. Donc ça c'est pour la partie design. Donc petite parenthèse, comme je disais, le fichier, une fois qu'il a été créé, donc toujours avec ses commentaires, vous pouvez le reprendre après avoir fait cette intégration, le redonner au designer, et puis lui demander justement de faire des changements, et ce, sans aucune espèce d'incidence sur la façon dont il va l'éditer, etc. Donc, aucun lien avec SharePoint de ce côté-là. Ça, c'est le point vraiment intéressant. Donc maintenant, on va passer rapidement sur le dernier point dont faisait partie cette démo, donc la partie mobilité. Et donc, on va venir regarder ici le fameux device channel. Alors, par défaut, on a un device channel, logique, celui qui répond à toutes les requêtes. Donc là, on va en créer un nouveau. Pour les besoins de la démo, on va faire juste, voilà, par exemple, Firefox, voilà. Donc ici, Device Inclusion Rules, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc ce sont les valeurs qui viennent du User Agent qui vont être considérées et prises en compte pour faire le changement au niveau du layout par rapport au navigateur qui est targeté. Donc potentiellement un navigateur mobile, et là, pour le coup, on va juste faire ça pour un navigateur desktop. Donc là, j'ai créé mon entrée, je sauvegarde. Jusque-là, tout va bien. Et on va revenir juste dans la page où on était juste avant, ma master page. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc on peut choisir une master page, mais ici, comme on a plusieurs device channels, on va avoir le choix pour chacun des device channels de quelle master page je suis censé utiliser. Donc pour Firefox, on va venir mettre celle-ci, et on va remettre la page par défaut pour le site par défaut. Donc on va pouvoir venir vérifier ici, on va appliquer le changement. Voilà, on revient ici, on voit bien que la page par défaut s'est bien affichée correctement. On ouvre, hop, j'avais déjà ouvert. Hop là, on va ouvrir Firefox. Je vais venir ici, je suis au bon endroit, ça n'a pas joué. Il y a un truc qui ne joue pas. Je n'ai pas activé. J'ai fait ça, moi. Ah, il y en a au moins un qui suit. J'aimerais bien pour l'éditer. Edit. Ok. On va réessayer. Je ne l'ai pas commité. Si. Bon, fini. Très bien. Et voilà. Un petit effet démo. On va rebasculer sur la présentation. Donc voilà comment on vient de le voir. Donc juste un petit rappel sur la fonctionnalité qu'on vient de voir par rapport au device channel. Cette feature donc requiert une feature donc s'appelle Publishing Mobile qui est activée pour pouvoir avoir accès au device channel. Mais logiquement, si vous avez un site de publishing qui a déjà le publishing activé, le publishing mobile vient avec. Donc vous n'avez pas à prendre en compte ce genre de choses. Vous avez donc toutes les valeurs en fait que j'ai modifiées au niveau du device channel sont stockées dans un fichier qui s'appelle .browser qui est à la racine du site qui contient les propriétés sur lesquelles se base le site pour faire les modifications. Petit point important aussi, on peut avoir un maximum de 10 channels par collection de site ou par site collection. Voilà, donc maintenant on va passer à la navigation et je rends la main à Yves pour voilà. La suite.
Donc moi je vais vous parler donc navigation et support du multilong par SharePoint 2013. Donc en premier la navigation, donc SharePoint 2013 s'appuie de manière très extensive sur les métadonnées gérées et donc le Term Store, nouvelle chose qui est arrivée avec SharePoint 2010. Donc ça on va le voir, c'est très pratique et c'est très intéressant notamment lorsqu'on voudra changer notre navigation dans SharePoint 2013. Donc du coup, ça apporte une séparation complète entre notre architecture d'information, donc notre contenu physique, et la navigation. Par exemple, vous pourriez très bien avoir une dizaine d'URL différentes pointant vers la même page physique. Donc ça, c'est très intéressant, ça vous évite d'avoir à créer 10 pages juste pour les besoins de l'URL. Donc ça va aussi vous permettre de simplifier cette navigation à votre contenu physique. Les URL sont aussi beaucoup plus claires. Vous avez la possibilité maintenant avec SharePoint 2013 d'avoir ce qu'on appelle en anglais des friendly URL, c'est-à-dire des URL qui veulent dire quelque chose. Par exemple, à la place d'avoir à propos de nous en un mot .spx, vous aurez à propos de nous peut-être avec des tirets. Donc ça va permettre à des engins de recherche comme Google ou comme Bing, typiquement, de pouvoir indexer ces pages de manière plus facile. Comme je l'ai dit, justement, vous pouvez très bien avoir plusieurs URL pointant vers la même page. Donc ça vous permet de diminuer votre contenu physique, votre nombre de pages. Donc on va le voir aussi comment ça se passe. En termes de multilangue, ceux qui n'aimaient pas les variations vont être servis, elles sont encore là. Donc on a encore les variations, donc c'est vraiment très similaire à SharePoint 2010. Par contre, en fait, avec le support des métadonnées gérées pour la navigation, on va voir comment est-ce que ces variations et les métadonnées gérées vont travailler les unes avec les autres. Ensuite, vous avez la possibilité d'exporter le contenu d'une page dans un format XLIF, format connu typiquement par les agences de traduction, et ainsi envoyer ce contenu, donc ce fichier XML, à cette agence de traduction qui va simplement vous renvoyer le même type de fichier, donc le même format. Vous allez pouvoir le réimporter ensuite dans SharePoint et votre contenu sera traduit quasi instantanément. On va le voir justement dans la démo. Alors regardons justement comment ça donne. Alors, je vais commencer en fait par la partie donc navigation. Donc ici, on a déjà un site qui a une certaine navigation. Donc on a la société, valeurs et vision, etc. Donc jusqu'à maintenant, en SharePoint 2010, ça correspondait normalement à des sites ou des sous-sites, donc une structure vraiment physique dans SharePoint. En fait, à l'heure actuelle, ça n'est plus vraiment le cas avec SharePoint 2013. Donc si je vais dans les site settings, sous navigation, il y a une option supplémentaire qui s'appelle Manage Navigation. Et sitôt que vous la sélectionnez, vous allez devoir sélectionner un term set. Ce term set, il apparaît donc ici. J'en ai déjà créé un qui s'appelle donc CTP et qui contient donc toute votre hiérarchie de navigation. On l'aperçoit ici. Vous ne pouvez pas la modifier depuis là. C'est pour ça, en fait, que vous avez un lien qui vous dirige directement vers le Term Store. D'accord? On le voit ici. Votre site collection, donc le term group utilisé pour votre site collection, le term set, et ensuite la société, valeurs et vision, notre team, etc., etc. Comment ça se passe ensuite au niveau de l'association de ces termes avec les pages? Alors en fait, lorsque vous allez sous l'onglet Term Driven Page, vous avez plusieurs choses que vous pouvez modifier, notamment ce qu'on appelle le friendly URL, justement. C'est-à-dire, vous pouvez le customiser ou simplement le laisser comme ça, pour typiquement donner un nom de page qui va apparaître dans l'URL du navigateur, qui sera peut-être un peu plus parlant. Vous pouvez ensuite changer la page cible. Là, on s'aperçoit très bien qu'on est dans un sous-site qui s'appelle About, la librairie bien connue Pages, et en fait, on attaque la page par défaut. On pourrait très bien la changer et ensuite aller cibler une autre page. Ensuite, lorsque vous avez, typiquement, vous êtes sur un nœud ici, la société, si vous voulez que tous les termes qui se trouvent en dessous de la société pointent sur une même page, vous pouvez simplement changer la cible pour tous les termes en dessous, et ça veut dire que tous les termes qui se trouvent en dessous de la société vont utiliser cette page, sauf exception, sauf si vous spécifiez explicitement une page. Donc ça peut être très pratique. Alors, une chose aussi importante, quand vous créez des termes dans le Term Store, vous ne savez pas dans quel ordre vous allez les rentrer, donc par défaut, il va simplement vous proposer l'ordre dans lequel vous avez rentré ces différents termes. C'est pour ça qu'en fait, il y a un onglet qui s'appelle le Custom Sort, qui vous permet simplement de définir manuellement l'ordre de votre navigation. Voilà. Qu'est-ce que cela donne? Cela donne que si par exemple je vais dans la société, plutôt ici, la technologie, voilà, j'ai laissé le menu à gauche, en principe je le cacherai. Je vais créer une nouvelle page. Je lui donne un nom et on voit qu'il me donne, en fait, il me suggère ou il crée automatiquement la friendly URL qui serait associée avec cette page. Je crée cette page. Un peu de contenu et puis ensuite on va publier cette page. Donc jusque-là, rien de bien transcendant, on dira. Donc on voit que la page avec la friendly URL est créée ici. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau du Term Store? En fait, on va le voir tout de suite. En fait, je vais venir à la Site Collection, voilà. Voilà, et ensuite je reviens ici, sous... j'avais créé la racine, donc il crée automatiquement le terme ici avec la page associée. Voilà. Par défaut, il va en fait simplement cocher pour tous les termes en fond une page par défaut. Cela veut dire que si je ne spécifie pas de page pour les termes qui seront créés en dessous de PageExample, tous les liens vont être dirigés vers le lien correspondant à ce terme. Voilà. Maintenant, chose intéressante, je me retrouve en fait sur un changement de structure de mon site, donc j'ai envie de bouger simplement toute la partie technologie sous la société. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais revenir dans les site settings, je vais revenir dans mon Term Store, d'accord? Ici, je prends technologie, je vais faire un move term, il va me demander simplement où aller le positionner, je choisis la société. Voilà, donc on s'aperçoit que sous la société, j'ai maintenant technologie avec les niveaux correspondants. On s'aperçoit que technologie a disparu, que sous la société, on a technologie et toute notre arborescence qui a été déplacée. Donc je pense que c'est très intéressant, ça permet vraiment de simplifier, je dirais, une modification de structure de navigation. Voilà. Je vais juste rebouger comme avant, technologie pour une raison bien précise pour la suite de la démo. Alors, voilà, move term, je le remets à la racine. Voilà. Un petit peu de cache peut-être, ou c'est peut-être l'effet démo. Peu importe, on va voir simplement, on va passer à la suivante qui sont donc les variations. Donc comment ça se passe pour les variations maintenant? Donc si je prends, alors, voilà. Donc ici, en fait, j'ai déjà un site avec des variations qui ont été créées, une hiérarchie qui a été créée. Donc on va le voir tout de suite ici. Donc sous Variation Labels. Donc j'ai deux variations qui ont été créées, l'une en anglais, donc qui est la variation source, et l'autre qui est en français, la variation cible. La hiérarchie a donc été créée. Donc a priori, si je tape mon URL, donc on l'a vu déjà précédemment, ici je vais atterrir systématiquement sur la page en français. Bon, elle est écrite en anglais ici, mais sur l'URL en français, puisque mon navigateur est configuré pour aller en français. Je vais la forcer et lui dire d'aller sur la variation anglaise, puisque c'est ma variation source. Je vais rajouter deux pages. Donc, About Us. Some words about us. Et puis, je publie. Voilà. Je rajoute une autre page, Contact Us, voilà, Please, Contact Us, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, après un certain temps, et là, en fait, pour les besoins de la démo, en fait, je vais aller tourner le job de manière manuelle, il est censé aller me créer les pages équivalentes dans la variation cible, c'est-à-dire la variation française. Alors, ici, j'ai déjà la liste de mes jobs. Je vais chercher la job definition qui correspond, c'est-à-dire Variation Propagate Page, qui tourne toutes les 15 minutes. Je l'exécute, et en fait, en quelques secondes ou quelques minutes, en fait, il va simplement créer les pages dans la variation française. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà, encore quelques secondes. Ça dépend tout. Voilà. Si je retourne à la racine, en français, je me retrouve avec About Us, Contact Us. On est bien d'accord que c'est la version anglaise qui est affichée ici. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. D'accord ? Donc, première chose, donc si on publie la page, comment est-ce que je vais faire traduire ça à une agence de traduction ? Alors, en fait, SharePoint 2013 a introduit en fait une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Create Translation Package, qui va générer le fichier XLIF. Donc je clique simplement sur ce bouton-là. Ah, alors ça c'est parce que je n'ai pas encore tourné un job qui est... Alors je vais le faire tout de suite. Alors, qui est donc l'export. Voilà, donc encore quelques secondes. Ça c'est simplement la première fois en fait que l'on va exporter, que l'on veut exporter un package. Il doit préparer toute son infrastructure pour exporter le package XLIF. Ça prend quelques secondes. Voilà, donc si maintenant je refais Create Translation Package, voilà, il me propose de télécharger un fichier XLF. Je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Et en fait, sur le bureau, en fait, j'ai une application qui s'appelle Virta, qui me permet de traduire ces différents fichiers. Alors, ce n'est pas la meilleure des applications, en fait, c'est un peu la première que j'ai trouvée, à vrai dire, qui m'ouvre en fait les différents termes et qui me permet donc de les traduire de manière plus ou moins automatique. Donc là, je choisis à propos. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Et puis ensuite, quelques mots à propos de nous. Je le considère comme traduit. Voilà, je sauvegarde. Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je reviens sur mon site que je désire traduire. Je fais Upload Translation. Voilà, je vais choisir mon fichier qui se trouve sur le bureau. Voilà, je dis que c'est moi qui l'ai traduit. Et après quelques secondes, en fait, on se retrouve avec la traduction qui a été effectuée, la traduction du contenu qui a été effectuée. Reste encore la navigation. Alors, la navigation, ça se passe aussi dans le Term Store. Voilà, et la traduction. On s'aperçoit, en fait, que SharePoint a créé deux term sets différents, l'un en anglais, l'un pour le français. En fait, ce sont des réutilisations des différents termes. On le voit grâce à la petite icône qu'on voit ici. Donc, ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est de sélectionner le terme en question, about us. On sélectionne la langue ici. On met à propos. On sauvegarde. La même chose pour contact us. On sélectionne le français. Contactez-nous. Et on sauvegarde. Voilà. Si je reviens maintenant à la racine, voilà, je m'aperçois que ma navigation a bien été traduite. Pour vérification, on peut regarder en anglais. On s'aperçoit qu'on a toujours les termes en anglais. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir sur la partie navigation et multilangue, en fait, il faut savoir que pour la navigation, un terme set ne peut être utilisé qu'une seule fois par collection de sites. Ce n'est pas vraiment une limitation, puisqu'en fait, on l'a vu, on peut réutiliser les termes dans d'autres termes sets. Donc on peut finalement, d'une manière ou d'une autre, les réutiliser. Mais on ne peut pas, une fois que vous avez sélectionné un terme set pour une navigation, vous ne pourrez pas le resélectionner ailleurs pour une autre navigation. Attention aux collisions avec un sous-site. Je ne l'ai pas montré ici, mais en fait, si vous avez un site qui contient, qui est nommé avec le même nom qu'un terme, vous aurez ce qu'on appelle une collision. Je m'explique. Si vous tapez l'URL de votre sous-site, vous allez aller sur la page par défaut de votre sous-site, pas de problème. Et en fait, si vous utilisez un terme qui possède le même nom, il va vouloir aller sur la même page, donc il n'y a pas de problème. Par contre, sur les termes qui vont se trouver en dessous de celui-ci, d'accord, SharePoint va d'abord résoudre l'URL en fonction de son site, sous-site, etc. Or, si par exemple le terme il est sous, je dirais, votre sous-terme, comment dire, ne correspond pas à une page de votre sous-site, vous aurez un page not found. Je pense que si on revient ici sur la démo, je vais revenir ici. Alors, ce sera peut-être plus parlant avec une démo ici. Si je prends consulting, d'accord, on a en fait consulting. Par contre, alignement stratégique IT, on a un page not found. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va essayer d'aller chercher la page qui s'appelle /consulting/alignement stratégique IT/pages/default.aspx. Et en fait, ce site et cette page n'existent pas. Donc il faut vraiment faire attention à cette collision entre les termes et les sites et à la limite, sacrifier le nom du site de manière à ce qu'il ne soit pas nommé de la même manière qu'un terme utilisé. En termes de variation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme en SharePoint 2010, il vaut mieux les activer avant la création, juste après la création de la collection de sites. Parce qu'en fait, lorsque vous allez activer votre variation, il ne va simplement pas répercuter les différentes structures, les différentes pages que vous auriez déjà créées avant. Pour chaque page créée, bien évidemment, comme avec les variations 2010, leur équivalent dans les variations cibles vont être créées de manière automatique ou de manière manuelle. Ça, cela dépend vraiment de vos settings. Les termes sont répliqués, mais en fait, ils sont réutilisés dans différents termes sets. Donc ça, on l'a vu dans la démo. Ça permet donc aussi la traduction, et pour chaque langue, de donner un terme français, anglais, espagnol, etc., en fonction de la langue. Voilà, on va voir maintenant la dernière partie de cette présentation, sur la gestion d'un catalogue, et le Cross-Site Collection Publishing.
Alors, parce que je vois qu'on est déjà... pas trop en avance, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Donc, publication ou cross-site collection, donc, comme on en parlait juste avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez déjà eu la problématique, typiquement, j'ai une liste dans une site collection et je voudrais pouvoir la réutiliser dans un autre. En 2010, c'est pas possible. Donc là, typiquement, ce que ça va nous permettre, c'est d'utiliser par exemple une site collection qui va contenir une de ces listes comme un catalogue, donc comme vraiment un provider de contenu, et on va venir la publier à l'intérieur de notre ferme pour que d'autres site collections puissent venir la consommer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc le cross-site collection publishing à l'intérieur de SharePoint 2013. Donc cette agrégation va être capable grâce au Content Search Web Part, on va en parler un petit peu plus loin, et donc Des scénarios typiques vont être par exemple l'utilisation de listes de catalogues ou de bases de connaissances qui peuvent être publiées sur différents portails. Un petit mot sur le Content Search Web Part, c'est une nouvelle Web Part qui est dans SharePoint 2013. Alors, elle est similaire à la Content Query Web Part, si ce n'est que La Content Search Report est basée sur l'index, donc sur le search. Donc la différence primordiale est que si vous avez du contenu qui doit s'afficher en fonction du Search Web Part et que votre contenu a été changé et non indexé pendant ce temps-là, vous pouvez avoir une légère différence. Donc ça, c'est un des points à noter ici. Le gros avantage par contre, c'est que cette Content Search Web Part fonctionne de manière cross-site collection, c'est-à-dire que vous allez pouvoir afficher du contenu qui est dans plusieurs site collections, ce qui n'était pas le cas justement aussi de la Content Query Web Part qui se limitait au site courant. De nouveaux modèles de présentation aussi, vous allez voir brièvement dans la démo, vous avez différents types d'affichage que vous allez pouvoir utiliser par rapport à cette Content Search Web Part sous forme de grille ou sous forme de slideshow par exemple. Ce sont des designs déjà intégrés dans la Content Search Web Part. Donc le scénario d'utilisation qu'on va regarder un petit peu, donc on va avoir un site d'édition qui va contenir notre catalogue. Ce catalogue va être indexé par le search et va utiliser aussi un certain set de term store que l'on va utiliser pour faire un drill down sur notre navigation dans le site de destination. Le gros avantage qu'on a de ce côté-là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on va pouvoir utiliser exactement le même search avec une Content Search Web Part dans les deux sites et le même theme store pour afficher le même contenu alors que ce contenu est, comme on vous le disait, donc pas disponible dans le site en question. On va passer tout de suite à la démo. Ce sera beaucoup plus clair avec la démo justement. Donc, pour commencer, donc voilà notre premier site. On a donc un site qui s'appelle Catalogue ici. Et ce catalogue contient une liste. Donc une liste d'items qui sont par exemple ici des produits qui sont extraits d'eBay. Donc on a un certain nombre de téléphones, d'articles, etc. Donc qu'est-ce que cette liste justement en particulier ? On va venir voir ici au niveau de la liste. Donc liste settings, comme vous avez l'habitude de le faire. On a une nouvelle option ici qui s'appelle catalogue settings. Donc cette option contient donc les paramètres qui vont permettre à SharePoint de publier cette liste comme étant un catalogue, donc qui va permettre de l'exposer sur les autres sites. Donc ici, on a un certain nombre de paramètres. Donc elle est bien activée comme un catalogue. On lui set donc les URL fields, donc qui vont être en fait les paramètres qui vont être passés dans l'URL pour savoir quel est l'item qui est targeté par le catalogue. Donc ici, typiquement, on va juste prendre l'ID, donc l'ID de l'élément qu'on essaie de récupérer dans la liste. Et donc typiquement, ce que je vous disais juste avant, donc par rapport à la navigation, on veut pouvoir afficher notre contenu en fonction de critères de la navigation, donc des métadonnées. Donc ces métadonnées-là sont par exemple ici donc une product catégorie, qui est donc la métadonnée qui est attachée à ces éléments. On va juste revenir ici pour vous la montrer. Donc on voit ici qu'on a une product catégorie qui est ici, donc qui contient un certain nombre de catégories, qui permet de faire la classification de ces différents éléments. Cette catégorie est elle aussi disponible au niveau du Term Store, mauvais clic, ici, sous Product eBay Category, donc on en a un certain nombre. Donc ce sont ces métadonnées gérées qui sont utilisées dans mes éléments. Donc maintenant on va passer directement dans notre site où on va vouloir consommer en fait notre catalogue. Et donc ici, je vais venir dans les paramètres de mon site et je vais venir où est-ce qu'il est ? Ici, dans Manage Catalog Connections. Donc on va venir en fait se connecter à un catalogue. Donc ici, on voit bien le catalogue qui est exposé sur l'autre site sur lequel était mon catalogue. On va juste venir se connecter. Donc là, quelques petits paramètres à donner. Donc premier point important, on va utiliser donc le catalogue dans notre site directement. On va lui donner donc une hiérarchie sur laquelle on va vouloir faire l'affichage. Donc ici, la product catégorie. On va ajouter le route term à notre navigation ici. Et en fait, on va pouvoir lui dire à partir de où on veut pouvoir commencer. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. C'est pas ça. C'est plus bas, excusez-moi. On va en fait venir dire dans notre site, comme vous avez vu tout à l'heure, on a une navigation déjà existante. On va vouloir dire dans quelle sous-navigation on va vouloir créer donc cette arborescence qui correspond à nos catégories. Donc là, typiquement, on va venir dans technologie COI, par exemple. Et donc, mon arbre, en fait, qui correspond aux valeurs de mes catégories, va venir s'afficher dessous. Vous allez, enfin, c'est peut-être pas très clair comme ça, mais quand vous allez le voir sur la démo en fonctionnement, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Donc ici, on va juste venir aussi vous montrer qu'on peut, par défaut, donc l'URL va être construite ici, on le voit, en utilisant l'ID dont je vous parlais. Donc on va avoir l'adresse avec la catégorie slash l'ID de l'élément qu'on essaye d'afficher. Je peux vous montrer que, par exemple, on peut passer d'autres paramètres. Donc, typiquement, ici, on a l'item ID, mais on pourrait récupérer de nombreux autres paramètres comme le list item type, etc., qui sont des valeurs qui viennent d'IB, qui sont dans la liste que je vous ai montrée, et pouvoir les passer dans l'URL pour que la page distante puisse potentiellement la récupérer pour en faire quelque chose. Donc là, nous, dans notre cas, on va juste utiliser l'item ID. Et la dernière partie qui est intéressante, c'est celle-là. En fait, comme expliquait Yves tout à l'heure, on peut avoir des pages qui sont targetées de plusieurs URL différentes, mais une seule page physique derrière. C'est exactement ce qui va se passer ici. On va avoir une catégorie page, qui est en fait la page qui va être affichée pour faire le search dans une catégorie. Donc, qui va être capable de dire, on cherche uniquement des téléphones. Donc, je filtre tous les items de la catégorie, j'affiche que les téléphones. Et lorsqu'on va vouloir afficher un item en particulier, c'est cette page-là qui va être utilisée. Donc, on va juste changer les master pages sur les pages par défaut. Et donc, catégorie page, item page, comme vous disiez. Donc là, on va créer notre catalogue. Voilà. On va venir regarder donc dans les site settings, dans la partie master page, non, dans les master pages, ici, page layout and site templates. Non. Je suis perdu. Voilà. Donc ici, ce que je voulais juste vous montrer rapidement, donc c'est les pages dont je vous parlais juste avant, qui sont ici. Donc catégorie IB, catégorie et la même chose pour l'item. Donc la partie importante ici, vous allez voir, donc comme vous avez vu pour la démo tout à l'heure par rapport au design, SharePoint a généré avec une page HTML, qui va être le même contenu en fait que les pages HTML que j'ai pu faire lorsque j'ai importé mon propre design, et on va pouvoir donner cette page-là pour la donner designer aussi, en disant, voilà, moi j'ai fait une page pour une catégorie et pour un item, maintenant, s'il te plaît, fais-moi quelque chose de joli pour que ça puisse être affiché correctement dans le cadre, justement, d'un catalogue, etc. Donc ça, c'est la partie layout. Donc on voit ici qu'on a un content type qui est associé, donc ça, c'est le content type qui va définir les données qui seront associées à la page. Donc, on va juste venir maintenant, un peu plus vite aussi, on va juste venir dans notre navigation au site Racine. Donc, on va venir voir ici qu'on a bien Microsoft COI, ici. Et si je passe avec ma souris sur ces items ici, vous voyez en bas dans l'URL qu'on en a bien à chaque fois, donc, la navigation sur laquelle on a dit qu'on voulait intégrer notre catalogue et qu'on a à chaque fois un item qui correspond. Donc on va venir, par exemple, sélectionner le premier qui passe. Ah, pas de bol, j'en ai pris un où il n'y avait rien. On va prendre smartphone, parce que là, je pense qu'on doit en avoir. Voilà. Donc là, on a cette page donc, qui va venir nous afficher ce contenu-là. Alors, juste pour la démo, on va venir éditer la page. Donc là, on nous dit qu'on est en train d'éditer une page qui est utilisée dans des URL multiples. Donc c'est la fameuse page template qui est utilisée pour afficher plusieurs catégories. Donc ça, c'est justement le but de notre démo. Donc on va venir éditer ce page template. On va prendre ici donc la fameuse Search Query Web Part que l'on va éditer. On va rapidement en fait juste lui changer le nombre d'items qu'elle va afficher et on va lui changer son mapping. Donc typiquement ici on a donc l'URL en fait de l'image qui vient de notre catalogue pour pouvoir l'appliquer directement ici. Donc si je veux venir appliquer le changement, voilà, je vais pouvoir publier ma page. Hop là. Donc là, on voit le fonctionnement justement qu'on essayait d'avoir. Donc on a typiquement bien ici la catégorie qui correspond avec les éléments. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc ici on peut voir aussi dans l'URL en dessous qu'à chaque fois sur un élément, on a l'ID qui correspond. Et c'est comme ça que la page du catalogue qui correspond aux éléments va être capable d'aller chercher cet élément en particulier et de m'afficher avec le page layout les métadonnées qui sont associées à cet élément. Donc là, on va dire qu'on pourrait faire nettement mieux au niveau présentation, mais ça c'est la présentation par défaut qui empile la totalité des propriétés qui sont exposées par mon catalogue. Donc là après, comme je vous disais, on prend la page HTML et là on peut faire un peu plus de design. Et voilà. Donc on va re-switcher sur les slides. Donc une petite précision par rapport à cette partie-là. Alors, volontairement pour la démo, on a enlevé la partie approbation pour simplifier un peu la démo. Mais normalement, lorsqu'on a un catalogue justement qui est dans un site de publishing, lorsqu'on modifie un élément, on repasse dans le, je dirais, dans le cycle d'approbation standard. Et si l'élément n'a pas été approuvé, eh ben, on ne peut pas le trouver de l'autre côté. Donc ça, ça donne une sécurité aussi quelque part lorsqu'on modifie son catalogue avant de pouvoir publier les changements. L'autre partie importante, ce que je vous disais, aussi valable dans le cas de l'approbation, c'est basé sur un index de recherche. Donc même si vous approuvez votre contenu, il faut attendre que l'indexation repasse sur votre contenu pour qu'elle puisse arriver à trouver les éléments qui correspondent à ce que vous essayez d'exposer sur votre site distant. Voilà, je redonne la main à Yves pour la conclusion.
En guise de conclusion, ce qu'on a vu durant les 60 dernières minutes à peu près, donc c'est notamment la partie navigation avec les métadonnées gérées et comment c'est géré donc justement dans SharePoint 2013, avec notamment le support des différents navigateurs, donc autant mobile que desktop. Donc une traduction aussi simplifiée des différents donc termes et des différents contenus des pages. En termes de master page et page layout, comment est-ce qu'on redonne en fait la puissance ou comment est-ce qu'on redonne le contrôle au designer en termes de branding de SharePoint 2013? Ce que l'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas pu démontrer aujourd'hui pour les raisons de temps, c'est que ce que l'on a fait en fait avec la page HTML, et ça c'est relativement important, c'est que vous allez le faire ça en dev, vous n'allez pas le faire ça sur votre système de production. Donc en fait, ce que l'on n'a pas eu le temps de montrer aujourd'hui, c'est que ce que vous avez fait comme modification sur votre master page, ainsi que tout, j'irais, les assets digitaux, donc les CSS, les images, etc., vous pouvez l'exporter directement dans un WSP pour pouvoir le déployer sur votre environnement de pré-prod et de prod. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un gain de temps. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par Visual Studio pour générer votre package et votre WSP. Ensuite, donc la dernière partie, où on a démontré qu'on pouvait simplement réutiliser un catalogue, typiquement en l'occurrence un catalogue de produits, dans une site collection, et le consommer dans d'autres site collections. Donc ça, je pense qu'avant, avec SharePoint 2010, on a encore cette barrière donc de la site collection. Là, on peut aller au-delà et vraiment réutiliser du contenu qui se trouve vraiment ailleurs. Je vais passer maintenant la parole à vous, si vous avez des questions, des commentaires, sachant en fait qu'on est encore présent, notamment, vu qu'on est la dernière présentation, on est encore présent un moment, et puis demain, si jamais. Questions ? Bon, visiblement ça a été clair. Dernier point, ça, c'est, je ne dirais pas que c'est mon hôtel favori, mais presque. Est-ce qu'il y en a qui ont la chance la semaine prochaine d'aller à Las Vegas? Je pose la question parce que la semaine prochaine, en fait, se déroule la conférence SharePoint 2012. Puisque SharePoint 2013 est sorti en RTM il y a peu de temps. Et Cambridge, donc, il aura un stand, le stand numéro 359. Donc, si vous étiez sur place, vous auriez pu nous rendre visite. Donc, en termes de contact, où nous contacter? Donc, Benjamin, où c'est qu'on peut te contacter
si... vous avez, je pense qu'on peut dire pour nous deux, vous avez à la fois notre blog ou notre compte Twitter ou notre email professionnel. Nous serons ravis de répondre à vos questions si vous en avez de manière plus privée.
Voilà. Donc, à nouveau, pendant la conférence SharePoint, si vous êtes intéressé par les dernières news ou sur ce qui se passe durant cette conférence, n'hésitez pas à vous connecter sur le flux Twitter SPC12. En ce qui me concerne, je serai aussi actif sur les différents sites, donc SharePoint EduTech, donc le site du MVP SharePoint Dave Coleman, ainsi que de SharePointBar.com, donc un petit site communautaire sur SharePoint. Et donc forcément sur le stand 359 à Vegas. Voilà, merci beaucoup pour oreille attentive cet après-midi. Et surtout, un petit message, n'oubliez pas les feuilles d'évaluation. C'est très important, à la fois pour l'organisation et pour les speakers. Merci encore. Bonne soirée.
Merci.